Hello, bienvenue à toi dans mon podcast Le Temps d'une Femme. Ici, tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, épouse et maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, de positivité, développement personnel, cheminement spirituel, mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs,
hey, bonjour,
nous allons passer un petit moment ensemble.
Nous voilà de nouveau ensemble pour un moment de partage qui, j'espère, saura vous être bénéfique dans votre quotidien de femme à 360 degrés. Je vais reprendre la suite de cette série de confidences sur mon parcours de femme, maman, épouse aux multiples casquettes. Mais je vous rassure, le but de ce podcast, c'est pas de vous raconter ma vie à travers un micro. Et j'ai conscience que c'est pas comme ça que je serai utile dans votre quotidien. Mais il me semble important quand même de vous conter mon histoire pour que vous puissiez vous identifier à certains passages de mon parcours, mais surtout comprendre ce pourquoi je le fais et le message que je souhaite faire passer. Vous pouvez voir ce podcast comme le partage d'une amie ou d'une sœur virtuelle qui vous veut du bien et qui tente de vous apporter un peu de mindset positif à travers son parcours. Ou alors aussi la cause d'un déclic dans votre vie de femme, que ce soit spirituel, organisationnel, professionnel, qu'importe. Je souhaite simplement que ce rendez-vous vous soit tout aussi agréable qu'utile. Avant de continuer, reprenons la fin du dernier épisode. Je vous partageais mes freins, mes motivations quant au fait d'assumer la femme qui se trouve en moi et qui apparaît aujourd'hui à la vue de tous car je porte désormais le signe de ma religion, mais aussi, surtout, celui de mes valeurs profondes, à savoir le bon comportement. J'ai osé, selon certains humains, revendiquer ma propagande islamique parce que je porte désormais un foulard sur la tête. En bref, je ne comprends pas pourquoi ce changement physique a un tel impact sur certaines personnes. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, dehors, qu'une personne s'habille avec une mini-jupe, s'habille en longue robe, porte un foulard sur la tête, un chapeau, un bonnet, qu'elle fasse des dreadlocks dans ses cheveux, personnellement et vraiment très honnêtement, j'en ai absolument que faire. Si j'échange avec la personne, je vais m'intéresser à qui elle est. Si j'échange professionnellement avec cette personne, je vais m'intéresser à ce qu'elle fait. Et si, en plus de l'humain, évidemment, parce que enfin, moi, en tous les cas, l'humain, c'est très important pour moi. Après, je peux comprendre que certaines personnes, l'humain, c'est pas ce qu'ils recherchent dans une relation professionnelle. Mais moi, c'est peut-être une déformation professionnelle de mon ancien poste de RH, mais j'ai besoin de m'intéresser à l'humain avant de savoir ce qu'il fait professionnellement ou ce qu'il peut m'apporter dans le milieu professionnel. Il y a aussi le fait que la personne, si j'échange avec elle, religieusement parlant, je ne vais pas m'intéresser à son look, je vais m'intéresser à ce qu'elle peut m'apporter au niveau religion, peut-être son degré de science, peut-être si elle est fiable, pour savoir si... voilà, pour jauger un petit peu le degré de confiance que je peux lui accorder, etc. Mais, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, c'est tout à fait ça. Il y a des filles qui sont voilées et ça ne veut pas dire qu'elles sont élevées dans leur degré de foi. Tout comme je disais dans l'épisode précédent, l'islam n'est pas représenté par ses représentants, entre guillemets, par ses membres, par les musulmans, parce qu'en fait, on reste des humains et l'humain est imparfait. Donc, tout comme l'islam n'est pas représenté par des humains, je considère que peu importe la façon dont on s'habille, c'est pas parce qu'une fille est en jupe dehors qu'elle n'est pas une bonne croyante, ou au contraire, qu'une femme totalement couverte est une bonne pratiquante. Ça ne veut absolument rien dire. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, je suis tombée sur un reportage d'un monsieur qui disait « Le comble de nos jours en 2024, c'est qu'un père qui est musulman arrive à dire à sa fille qui a envie d'assumer en fait qui elle est, sa religion, etc. Il arrive à lui dire, ma fille, d'accord, sois musulmane, pratique à la maison, mais par contre ne porte pas le voile, ne porte pas de robe longue, parce que j'ai peur pour toi en extérieur, ça peut te porter préjudice. Tu pourras ne pas prétendre au métier pour lequel tu as fait de longues études. Tu pourras te mettre en danger parce que dehors, bah, il existe des personnes qui te voudront du mal. Non mais, allô? Allô? Tout comme je trouve absolument incroyable qu'on puisse dire à une fille, ne porte pas de jupe si tu veux pas qu'on te mette la main aux fesses, je trouve ça mais complètement ahurissant qu'un père qui normalement enfin, est musulman et connaît la valeur de ce foulard puisse par peur, non pas par malveillance ou par je ne sais quelle autre raison, indiquer à sa fille pour son bien-être, en fait parce qu'il a peur pour elle, lui dire non ma fille. Ne porte pas ce foulard en extérieur parce qu'il pourrait te causer du tort. Il a peur pour sa vie professionnelle parce qu'on sait qu'en France, le port du foulard, c'est tout un sujet. Et il a peur pour sa vie en extérieur, sa vie mondaine, qu'on puisse venir lui être un danger parce qu'elle porte un foulard sur la tête. Et ce qui est triste, je trouve, c'est que c'est une réalité aujourd'hui en France. Alors certaines me diront effectivement, mais non, t'es en train d'extrapoler, t'es en train d'en faire une généralité, c'est pas comme ça que moi je le vis, j'ai une amie qui habite en ville et il lui est jamais rien arrivé. Alors attention, évidemment que ça peut ne pas arriver, évidemment que vous allez pouvoir trouver des sociétés qui acceptent le port du voile, qui acceptent que vous fassiez le ramadan, qui vous acceptent tout simplement en tant qu'humain que vous êtes et qui vous a pris pour vos compétences, peu importe votre vie personnelle. Quoi qu'il en soit, ce qui est malheureux, c'est qu'on entend de plus en plus parler de discrimination, mais comme les médias ne s'intéressent pas et ne veulent pas défendre l'islam, forcément, on en entendra moins parler, mais c'est pas pour autant que c'est un cas isolé, bien au contraire. Et pour vous faire la confidence, il me semble vous en avoir parlé dans les épisodes précédents, mais il s'avère que quand je ne portais pas le foulard et que j'étais cadre RH lors des recrutements, quand on me disait, oui, mais vous savez, moi là, aujourd'hui, face à vous, j'ai dû me découvrir la tête, mais quand je vais quitter cet entretien, je porte le foulard, mais je suis obligée de l'enlever parce que sinon je me fais discriminer. Il m'est arrivé de répondre un jour à cette personne qu'il faut arrêter de se victimiser. Et aujourd'hui, j'ai honte de ce discours et vraiment, je me rends compte à quel point il peut être rageant. Parce on me l'a dit à mon tour, arrête de te victimiser. Parce que j'ai parlé sur les réseaux de tout ce que je pouvais subir en portant le foulard. Et bref, je repensais à cette femme à qui j'ai dit, mais non, il faut arrêter de se victimiser, nous les musulmans, à chaque fois qu'on n'est pas pris à un travail, on dit que c'est à cause du foulard, à chaque fois qu'on ne trouve pas de travail, on dit que c'est parce qu'on est musulman. Il faut arrêter. Quand on veut du travail, il y en a, et des offres d'emploi, il y en a. Il suffit d'avoir les compétences et la volonté nécessaires. Alors oui, ok. Si tu as les compétences, si tu respectes les conditions de recrutement d'une société, effectivement que tu as des chances d'occuper ce poste. Mais il y a une réalité. Et je l'ai vécu quelques années après. Ça, c'était dans mes débuts au poste de ressources humaines. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait de la discrimination non seulement envers les femmes, parce que mes managers préféraient recruter un homme qui n'allait pas tomber enceinte. Si je recrutais une femme, il fallait que je fasse attention que ce soit pas une femme qui allait s'arrêter pour un congé maternité, que ce soit pas une femme qui soit trop âgée et qui allait du coup rester que 1 ou 2 ans et après s'en aller pour sa retraite. Qu'il fallait que... Et tout ça, c'est véridique, c'est de la discrimination pure et dure. Et on me demandait clairement, de discriminer les candidats que je recevais. Et ça, c'est malheureux. Donc, je ne vais pas citer les sociétés pour ne pas faire de délation. Mais effectivement, c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussée à quitter ce poste. Parce que j'étais jamais en accord avec mes managers et que pour moi, la façon de recruter, il fallait que je sois droite dans mes bottes, tout comme il fallait que je sois droite dans mes bottes dans mon quotidien. J'avais besoin de l'être à mon poste. Et pour autant, ce poste était un poste légal, entre guillemets, au niveau religieux, parce que je ne causais de tort à personne, je ne vendais pas de choses illicites. Au contraire, je permettais aux personnes d'occuper un poste, et des postes qui étaient licites, qui ne leur causeraient pas de tort, qui ne causaient pas de tort à leur éventuelle conviction religieuse. Mais, quoi qu'il en soit, si je devais discriminer, alors c'était moi qui faisais quelque chose d'illicite, parce qu'en fonction d'une couleur de peau, d'un âge, d'une situation, d'un sexe, il fallait que je refuse certaines personnes que je recevais en entretien. Et pour moi, c'était impossible de fonctionner de cette manière. Donc, c'est là où j'ai compris, effectivement, les femmes sont discriminées par rapport aux hommes. Les jeunes sont discriminés par rapport à celles qui ont de l'expérience. Les personnes âgées étaient discriminées par rapport aux plus jeunes. Mais aussi, les femmes de couleur étaient discriminées à certains postes. Ou par exemple, en lien avec le public, en relation avec le public, eh bien, il y a certaines personnes que j'étais invitée à ne pas recruter parce que ça ne représentait pas l'image de la société. Mais quand je vous dis ça, je me dis, mais punaise, comment j'ai pu entendre ça pendant plusieurs années et pas partir plus tôt? Bah oui, moi aussi j'avais besoin de nourrir mes enfants, moi aussi j'avais besoin de tenir mon poste parce que finalement j'aimais mon métier. Et certains managers étaient, on va le dire, hein, excusez-moi pour le terme, j'aime pas être familière, mais c'est le seul terme que je trouve, qui était con. Mais ça ne représentait pas la société ou le fondateur de cette société qui, lui, avait de grandes valeurs humaines. Donc je devais me battre à chaque fois contre les managers, quitte à mettre mon poste en péril. Effectivement, je me suis mis des gens à dos, des gens qui avaient du pouvoir dans la société. Mais c'est pas pour autant que j'allais retourner ma veste et que j'allais les suivre et marcher sur mes valeurs profondes. Donc je défendais ce qui était pour eux l'indéfendable. Quoi qu'il en soit, j'en reviens au sujet principal qui était... Effectivement, j'ai regretté d'avoir dit à cette femme « Cessez de vous victimiser » parce que je ne m'étais pas mise à sa place. Bon, on peut mettre ça sur la faute de la jeunesse, début d'expérience, mais surtout que je ne connaissais pas et je ne savais pas ce qu'elle vivait en tant que femme musulmane en France. Et pour autant, c'était il y a quelques années déjà. Alors imaginez-vous aujourd'hui avec la montée du racisme, la montée du FN, la montée de soi-disant la liberté d'expression qui permet à chaque raciste de délivrer un petit peu sa parole, de délier les langues et leur permettre de dire ouvertement et publiquement, même sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours et même sur les médias, eh bien, qu'ils sont contre une certaine sorte de population, pour pas reprendre certains termes. Mais de nos jours, effectivement, mais ça existait déjà il y a quelques années, ces femmes étaient déjà discriminées. Et pour autant, elles n'étaient pas forcément écoutées, encore moins aujourd'hui. Et au contraire, on leur disait « arrêtez de vous victimiser », alors que leur problématique était bien réelle. Si ces femmes s'enfermaient chez elles, si ces femmes arrêtaient de travailler malgré leurs diplômes et leurs compétences et leur expérience et leur motivation, c'était parce qu'on les poussait, le gouvernement, les citoyens et toutes les personnes qui n'étaient pas amenées à les écouter, à les accompagner, à les aider, eh bien, provoquaient, en fait, les invitaient à rester chez elles et à ne pas travailler parce que personne ne leur offrait un travail à part, effectivement, certains métiers où on autorisait le port du foulard, où on autorisait que vous parliez pas très bien le français, parce que c'était des métiers où les Français, ceux qui avaient des diplômes Et ceux qui n'étaient pas étrangers ne voulaient pas, comme agent d'entretien, comme plonge à la restauration, enfin, ou commis en restauration, et bien d'autres métiers comme ça où vous n'étiez pas forcément face à la clientèle, où on se fichait que vous sachiez parler français ou non, que vous sachiez que vous portiez un foulard ou non, que vous soyez d'une telle ou telle religion. On s'en fichait, on avait besoin de vos mains. On n'avait pas besoin de vos cerveaux, on n'allait pas entendre votre avis, vous n'alliez pas changer les choses ou la façon de voir les choses. Vous alliez simplement exécuter ce qu'on allait vous dire de faire. Et là, effectivement, ça ne dérangeait pas que vous soyez étranger, analphabète, illettré ou encore musulmane ou voilée ou que sais-je. Et c'est là où je voulais en venir. Concernant l'aspect physique, en fait, il y a l'aspect physique qui dérange, certainement, mais en fait, c'est surtout le message que ça passe derrière. Parce qu'effectivement, si vous êtes intelligente, que vous avez des diplômes, que vous pouvez imposer votre vision des choses ou en tous les cas partager votre avis et votre opinion, ça ne dérange pas tant que vous pouvez représenter la française. Mais à partir du moment où c'est une musulmane, ou en tous les cas, que la religion apparaît sur vous, eh bien finalement, vous revendiquez en fait un petit peu, sans le vouloir, hein, mais votre différence. Et en France, en étant différent, on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas avoir des opinions, on ne peut pas représenter la France, parce qu'on sait bien la France aux Français. Sauf que je veux pas aller dans un discours contre les Français, je suis française. Mais effectivement, comme je le disais dans un de mes posts sur Instagram, même si j'aime mes enfants profondément, même si je veux leur bien, même si je continue à parler d'eux en bien envers et contre tous, je sais reconnaître quand ils font du mal, quand ils déconnent, quand ils font des bêtises. Et je sais reconnaître leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Donc c'est pareil, ma France, le seul pays que j'ai toujours connu, dans lequel j'ai grandi, celui dans lequel je dépense tout mon argent, dans lequel je paye des impôts, dans lequel j'ai fait naître mes enfants, enfin, le seul pays que j'ai toujours connu, je sais reconnaître ses bienfaits. Il y a énormément de superbes choses dans notre pays. On a la chance d'avoir des monuments incroyables, un mode de vie qui est quand même incroyable, des paysages qui n'ont rien à envier à d'autres pays. On a quand même une belle histoire. On a des. Enfin, voilà, on n'a rien à envier à d'autres pays. On a quand même l'accès à la sécurité sociale. Il faut pas cracher dans la soupe. On a quand même un Même ceux qui sont les plus démunis ici ont quand même un minimum, vous voyez, même si, voilà, il y a quand même des sans-abri, il y a quand même de la pauvreté en France et il ne faut pas le négliger, mais on a quand même un mode de vie. La pauvreté en France n'est pas la pauvreté en Afrique ou dans d'autres pays, d'accord? On a quand même un confort de vie. Mais je reconnais aussi que la France, malheureusement, prend une tournure qui, moi, me déplaît en tant que personne avec des origines. Il faut le vivre pour le comprendre. Quelqu'un qui est purement de souche, français de souche, il se fait rare maintenant parce que la France est très cosmopolite et il y a énormément de mélange, j'appelle ça un melting pot, mais de mélange entre les origines, et je trouve ça beau, c'est enrichissant de voir certaines origines différentes se marier entre elles, créer des enfants qui sont d'origines diverses et variées, et je trouve ça super beau, c'est une richesse, la richesse des langues, la richesse des cultures. Et finalement, quand on rencontre un Français de souche qui n'a pas de religion spécifique ou peut-être est chrétien. On appelle ça la religion de la France, mais la France est laïque, rappelons-le. Donc la liberté de culte et non pas la restriction de culte. Eh bien, on se rend compte que bah, dans un pays des droits de l'homme, on se retrouve à être dans un pays qui restreint les droits de l'homme, en se comparant à des pays comme l'Afghanistan. Et il y a bien d'autres pays où les droits déjà de la femme, avant celui de l'homme, les droits de la femme sont restreints. Bien finalement, quelle est la différence avec la France, où on essaie d'imposer à la femme qui elle doit être, comment elle doit se vêtir, quel poste elle peut occuper ou non? Et je parle de la femme en général, d'accord? Et quand je compare sur mes réseaux sociaux ces pays comme l'Afghanistan avec la France, on me dit non mais ça va pas ou quoi, t'es complètement dans l'extrême. Oui mais non, sans parler de l'extrême de ce que subissent les femmes là-bas, je parle au niveau des droits. Est-ce que nos droits, finalement, on nous laisse avoir tous les droits en fonction, enfin, voilà, avec le respect des lois bien évidemment du pays, mais est-ce que les hommes qui gouvernent notre pays aujourd'hui nous laissent choisir en tant que femme, nous donne des droits en tant que femme dans le pays qui est la France? On a certains droits, effectivement. Waouh! Les droits, on a même une journée des droits de la femme. Mais finalement, combien de femmes sont au pouvoir? Finalement, quels sont les droits d'une femme qui souffre chaque mois de menstrues? Quels sont les droits d'une femme qui porte un enfant en elle et qu'on discrimine à son retour de congé maternité? Quels sont les droits d'une femme qui souhaite assumer de se vêtir comme elle le souhaite, que ce soit avec une mini-jupe ou avec un foulard sur la tête? Avec une mini-jupe, on vous met la main aux fesses et on vous dit vous l'avez cherchée. Avec un foulard sur la tête, on vous discrimine et vous empêche de sortir de chez vous en vous interdisant les espaces publics, en vous disant vous l'avez cherché. Mais en fait, à quel moment on a le droit de choisir qui on a envie d'être? Au même titre que les femmes étrangères dans des pays qui sont sous une dictature n'ont pas le droit de choisir quelle femme elles ont envie d'être, eh bien en France, on n'a pas le droit de choisir quelle femme on a envie d'être, et tout simplement, limite pas le droit d'être une femme. Et là, je vais un petit peu dans l'extrême et je vais mesurer mes propos, mais effectivement, quelles conditions privilégiées ou positives à notre égard sont mises en place? Et attention, je mets pas tout dans le même sac non plus. On a quand même certains avantages par rapport à d'autres pays, évidemment. C'est pas parce que je parle du négatif qu'il n'y a pas de positif. Attention, hein. Je sais reconnaître aussi le positif. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a encore énormément de travail. Et c'est là où toutes les féministes, je me dis, finalement, elles se battent que pour certaines causes et pas pour toutes les causes des femmes. Parce qu'une femme, peu importe sa religion, peu importe ses choix, peu importe comment elle souhaite se vêtir, normalement, ça doit rester juste un humain, une femme qui a effectivement des droits, peu importe quels sont ses choix. On n'a pas à t'autoriser certains droits juste parce que tu fais certains choix et celles qui font des choix différents, bah du coup, on leur restreint ces droits-là. Non, c'est soit tu donnes les droits à toutes les femmes ou à tous les humains, qu'ils soient femmes ou hommes, ou soit tu les restreins à tout le monde. Mais il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de discrimination à faire. C'est là où je veux en venir. Et j'ai vraiment été dans le détail de ce sujet parce qu'il me touche et quand j'en parle sur les réseaux, ça fait polémique. Mais il n'y a pas à faire polémique. Normalement, si tu es humaine et que tu es un minimum bienveillante et que tu as un cœur et que tu le fais fonctionner et que tu as un esprit et que tu le fais fonctionner aussi, tu veux pour les autres ce que tu veux pour toi, ce que tu veux pour ta fille, ce que tu veux pour tes enfants, pour tes garçons aussi. Et ça, pour moi, c'est un minimum. Ne fais pas ce que tu voudrais pas qu'on te fasse et n'impose pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on t'impose. Et facilite aux autres ce que tu voudrais qu'on te facilite. En bref, pour en revenir à la suite de mon parcours, parce que je peux en parler des heures, mais là, on est déjà à 23 minutes de podcast et j'ai vraiment envie de vous raconter la suite et qui est beaucoup plus positive parce que la fin du précédent épisode, je vous ai raconté des choses négatives avec la perte des clients, la perte de 27 000 abonnés, parce que mon aspect physique a changé, mais finalement mon comportement de musulmane a toujours fait partie de moi. Et c'est pas que le comportement d'une musulmane, quand je vous en parle comme ça, en fait les préceptes de l'islam sont normalement ce que chaque humain sur Terre devrait avoir comme comportement, devrait s'imposer au quotidien comme règle vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc quand je parle de mon comportement de musulmane, je veux pas vexer les non-musulmans et faire croire que seuls les musulmans ont ce comportement-là. Non, c'est juste pour vous expliquer que si j'ai certains comportements, bons comportements, c'est parce que ma religion me les inculque, me les impose, et qu'en tant qu'humain, certainement si je n'avais pas cette religion-là, eh ben en tant qu'humain, je ferai des erreurs et j'en fais aussi en tant que musulmane, attention, hein. Mais en gros, mon caractère à moi, comment je suis née, par exemple, sans être musulmane, comment je suis née, eh ben peut-être que je me serais emportée dans certaines situations. Peut-être que j'aurais envoyé balader certaines personnes dans certaines situations. Alors que quand je me remets dans mon comportement de musulmane, eh bien je me dis non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ressaisis-toi. Non, ne t'emporte pas. C'est pas grave. Pardonne, partage autour de toi, donne même si tu n'as rien à y gagner en retour, parce que c'est Dieu qui va te donner en retour. Et c'est dans ce sens-là où je vous dis que mon comportement de musulmane m'incite à faire le bien, parce que en tant que caractère d'humain, j'aurais pu être amenée à penser différemment, à réfléchir différemment. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas bons. Je connais des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ont un meilleur comportement que certaines personnes sur qui la religion se voit, de par le port d'une barbe, le port d'un foulard, ou de personnes sur qui ça ne se voit pas, mais qui revendiquent leur religion. Ah oui, moi je suis fière d'être musulmane, je suis fière d'être juive. Oui, mais à partir du moment où normalement tu es dans une des religions qu'on appelle du livre, que ce soit chrétien, juif ou musulman, eh bien tu as ce même comportement de paix, de bienveillance, de respect de toi-même, de la nature, mais aussi de l'autre, de l'humain, des animaux, etc. Et donc c'est après la perte de tous ces humains qui finalement j'ai aidé en fait pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, parce que je porte un foulard, parce que mon aspect physique, alors que mon comportement n'a pas changé, mon intelligence n'a pas changé, mon degré de compétence n'a pas changé, j'ai porté ce foulard et ça a été un gros déclic pour les gens. C'est ça y est, oh, c'est une musulmane, elle le revendique. Mais non, c'est juste que je me suis assumée. Et je me suis épanouie en tant que femme. Et que maintenant, le bon comportement que j'essayais d'avoir au quotidien en aidant mon prochain et compagnie, qui n'était pas parfait, parce que personne n'est parfait, mais aujourd'hui, j'étais en mesure et j'avais un degré de foi qui n'était pas accompli tant que je ne rayais pas cette case supplémentaire dans les critères que nous a imposés notre Dieu vis-à-vis de la religion musulmane, c'est-à-dire le port du voile. Vous entendrez certainement des personnes vous dire « Mais non, le voile n'est pas obligatoire !» Écoutez, moi je me fie à ce qui est écrit dans le livre, la seule parole qui n'a jamais changé. Parce que les « quand dira-t-on » les « oui, un jour on m'a dit que ça peut changer ». Non pas forcément par volonté de changer les paroles de Dieu, mais par méconnaissance. Peut-être que, quand on dit le téléphone arabe, t'as entendu quelqu'un qui t'a dit que tu le prends pour argent comptant et tu le répètes à quelqu'un d'autre, mais finalement peut-être que entre temps t'as mal compris le sens et tu l'as déformé sans forcément le vouloir. C'est pas forcément que vouloir le mauvais. C'est peut-être par mégarde, parfois, certaines personnes rapportent une parole qui n'est pas celle qui a été reçue, celle qui a été écrite. Et le Coran, on peut le lire, et il y aura autant de définitions, autant de compréhensions différentes qu'il n'existe de personnes sur Terre. Donc, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est que les femmes musulmanes doivent, pour se protéger de différentes choses, rabattre leur grand voile sur leur poitrine. Voilà, donc en passant par couvrir les cheveux, recouvrir les épaules et le cou et la poitrine. Pour garder ce qu'elles ont de plus précieux, c'est-à-dire leur féminité pour les hommes qui font partie de leur famille et l'homme, donc l'élu qu'elles ont choisi pour devenir leur époux. Et je trouve ça super beau parce qu'un coquillage, une perle, est recouverte d'un coquillage. Le coquillage est la couverture de la perle et elle ne se dévoile qu'à certaines personnes qui peuvent l'ouvrir. Tout le monde ne peut pas ouvrir le coquillage, sauf en l'écrasant, et ça, c'est différent. Et ça, c'est imposé, c'est pas une ouverture naturelle. En bref, j'ai ressenti, après toute cette perte d'abonnés et de clients, le besoin de me recentrer sur moi et vraiment me rappeler le pourquoi je suis musulmane, pourquoi j'ai fait ce cheminement, pourquoi retourner aux racines même de pourquoi j'ai choisi, non pas qu'on m'a imposé cette religion, pourquoi je l'ai choisie. Et c'est alors que j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses si je fais une pause là dans mon business pendant un mois ou deux? Est-ce que ça te dirait, alors que jusqu'à maintenant je n'ai jamais demandé son avis sur le port de mon foulard, sur ce qu'il en pensait, c'est un choix personnel et je n'ai sollicité l'avis de personne. J'ai voulu porter mon foulard, je l'ai porté. Je n'ai sollicité l'opinion de personne, pas même le principal intéressé qui est mon mari. Finalement, qu'est-ce que ça changeait pour lui? Bah rien, parce qu'à la maison, il me voit toujours bien coiffée, maquillée, vêtue des plus belles tenues, les plus voilà, les plus courtes, les plus sexy, avec lesquelles je ne peux pas sortir dehors et je sortais déjà pas dehors, même en étant pas voilée. Voilà, ça c'est, j'offre ce que je veux à mon mari, c'est entre lui et moi, c'est mon élu, c'est celui pour qui je suis en toute légalité. Si je lui offre mes plus beaux vêtements, ma plus belle carrure, mes plus beaux atours, mais voilà, c'est à lui que je dois offrir mes plus belles choses, et rien qu'à lui, parce qu'il est mon époux, et que lui aussi m'offre ses plus belles choses, et qu'il a décidé par la suite, sans me demander non plus mon avis, bah lui aussi de se préserver, parce que les hommes aussi ont des devoirs en islam. Il n'y a pas que la femme. Alors effectivement, vous voyez peut-être certainement dans des couples que la femme le faire, mais l'homme aussi aura des comptes à rendre, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que l'islam n'est pas défini par les musulmans. Certains musulmans n'ont pas forcément un comportement parfait, ils auront des comptes à rendre, mais l'humain est imparfait, on peut faire des fautes, on peut faire des péchés, mais à partir du moment où on respecte les 5 piliers de l'islam, alors on est musulman, d'accord? Il y a des choses qui font sortir de la religion, il y a des choses qui sont juste des péchés pour lesquels, enfin juste, je ne minimise pas, hein, mais il y a des péchés pour lesquels on devra rendre des comptes. Donc oui, un musulman peut commettre des péchés et il devra rendre compte auprès de Dieu. Mais c'est pas les humains ou les musulmans qui vont avoir à en juger. C'est juste Dieu qui en jugera. Et donc, je vous disais que quand je me suis voilée, j'ai pas demandé l'avis à mon mari. Et quand lui a décidé de se laisser pousser la barbe, de se raser le crâne, de se vêtir de façon mastour lui aussi, parce qu'il y a des conditions à respecter, il a pas le droit de montrer de la partie à partir de son nombril jusqu'à ses genoux. C'est une partie, même à la plage, qu'il n'a pas le droit de montrer à la vue de tous. Donc c'est pour ça que, pour celles qui suivent un petit peu nos vacances sur Instagram, si j'ai pu montrer à un moment donné nos vacances ou mon mari à la plage ou des choses comme ça, il était très couvert et on m'a demandé pourquoi est-ce qu'il porte un cycliste qui couvre son nombril, ou des fois pourquoi il porte un t-shirt alors qu'il est à la plage. Bon, c'est des vêtements spéciaux hein, pour l'eau, mais pourquoi est-ce qu'il porte un cycliste qui descend en dessous du genou? Pourquoi est-ce qu'il porte un t-shirt? Pourtant, vous êtes à la plage. Eh bien, de la même manière que moi, je vais porter un burkini, parce qu'il faut que je couvre mon corps pour les raisons que j'ai citées précédemment. Et lui, il faut qu'il couvre son corps aussi. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ça te dirait que je fasse, est-ce que tu es d'accord que je fasse une pause dans mon business, parce que ça allait impacter directement notre famille, bien évidemment. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une pause ensemble d'une quinzaine de jours et qu'on retourne aux racines de l'islam et qu'on aille comprendre, qu'on aille poser des questions à Dieu, et quel meilleur endroit pour se rapprocher de Dieu et avoir des réponses à nos questions que la maison de Dieu, la maison sacrée à la Mecque? Donc, pour faire un pèlerinage, c'est pas le pèlerinage légal, c'est juste un petit, qu'on appelle un petit pèlerinage, c'est la Umra, qui nous permet d'aller dans la maison de Dieu, y faire des prières qui valent beaucoup de prières, y faire des invocations qui forcément, en étant plus proche de Dieu dans sa maison, eh bien qui sont peut-être par espoir, j'ai l'espoir qu'il soit plus entendu et mieux reçu, et pour lesquels je poserai mes questions et j'attendrai des réponses. Il m'a regardé et je pensais sincèrement qu'il allait me dire non, je me sens pas prêt ou non, c'est pas le moment. Ou il m'a dit oui directement. Et là, j'ai compris qu'en fait, il voulait m'accompagner dans notre cheminement et qu'on allait faire notre cheminement spirituel ensemble, alors que à la base, j'allais rien lui imposer, rien lui demander et qu'il était libre de le faire. Et j'étais tellement heureuse, mais tellement heureuse, je venais d'oublier tout ce qui s'était passé précédemment, de négatif, et que tout ce que je pouvais retenir, c'est OK, c'est mon pilier. Et il m'accompagne dans un moment compliqué de ma vie, et il veut m'accompagner dans ce cheminement spirituel en faisant lui aussi son cheminement spirituel. Donc de là, un mois après, on a fait le voyage à la Hamra, donc à la Mecque, avec le plus grand de notre fille, enfin de notre fratrie, Wa'il. Il avait 9 ans. Il a beaucoup aimé ce voyage parce qu'en fait, on lui parlait pas mal des prophètes, on lui parlait de l'islam, on essaie de lui expliquer surtout les valeurs de l'islam. Au-delà des devoirs, au-delà des conditions pour être musulman, on lui explique surtout les valeurs qui, pour nous, sont les valeurs que tout humain devrait avoir. Le respect, la bienveillance, le partage, la générosité. Et ensuite, on lui inculque effectivement les devoirs qui incombent aux musulmans. Et le fait d'avoir vu cette maison de Dieu en photo, d'avoir écouté les histoires, d'avoir lu les histoires, parce qu'il a des livres aussi, il a ressenti lui aussi quelque chose de spécial en faisant ce voyage avec nous. Il avait une fierté du haut de ses 9 ans de se retrouver dans la maison de Dieu. Alors que clairement, j'en ai honte, mais c'est ainsi, moi à 9 ans, mes parents n'ont pas fait ça pour moi. Et du haut de mes 9 ans, bah, clairement, on m'aurait dit d'aller à la Mecque, ça m'aurait été complètement. Ouais, bah non, j'ai envie d'aller à la plage ou à la piscine. On m'aurait dit, viens, on va aller dans la maison où beaucoup d'histoires du Coran se sont déroulées. Ouais, c'est quoi le Coran? Ok. Enfin, vous voyez, quand je vous dis vraiment j'ai choisi la religion, mes parents sont pratiquants, attention. Mais en fait, ils n'avaient pas ce côté où ils m'ont inculqué la religion, où ils ont lu des livres avec moi, mais je leur en veux pas du tout. Parce que ça m'a permis aussi de chercher par moi-même. Et c'est très bien. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour faire de moi une enfant heureuse. Et je les remercie parce que vraiment, ils m'ont inculqué ce qu'ils pouvaient avec les connaissances qu'ils avaient. Donc, ils m'ont appris à faire la prière, ils m'ont appris à faire le ramadan, ils m'ont appris ce qu'ils pouvaient m'apporter. Voilà, en fonction de leur savoir, en fonction de ce que eux avaient appris, en fonction du temps qu'ils pouvaient y consacrer. Et je leur en suis vraiment reconnaissante. Mais j'ai envie, moi, à mon degré, enfin, à mon niveau, en tous les cas, apporter quelque chose de supplémentaire à mes enfants et les accompagner dans leur apprentissage, pour éviter qu'ils s'égarent, pour éviter qu'ils n'aillent dans des sectes qui existent aujourd'hui, pour éviter qu'ils n'aillent dans l'extrême aussi, mais surtout leur inculquer la religion, surtout pour le comportement. Et ensuite, ils verront par eux-mêmes que la religion n'est que bonne pour eux, en fait, et n'est pas du tout ce qu'on en dit. En France, via les médias, etc. Et c'est de ça que je veux les préserver, en leur inculquant les vraies valeurs, les vrais devoirs, les vrais, le vrai bonheur de cette religion. Et donc, on a fait le voyage, j'étais dans ma bulle, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire en étant là-bas. En revenant, j'avais juste envie d'y retourner. J'ai pleuré en revenant en France, mais vraiment. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai pas les larmes faciles. Mais pour autant, là, je me sentais mal en revenant en France. Et pourtant, j'étais tellement contente de retrouver mon chez-moi, tellement contente de retrouver mes amis, ma famille, mes habitudes, retrouver mes enfants aussi, bien évidemment, qui avaient été gardés. Mais ça m'a fait bizarre, parce qu'il fallait que j'éclate cette bulle dans laquelle je me suis retrouvée. En faisant ce voyage à la Mecque, je me suis retrouvée dans un pays où il y avait tellement, tellement de richesses étrangères, tellement d'étrangers. Il n'y avait pas de Français là-bas. Je retrouvais pas les gens de chez moi. Je retrouvais des Pakistanais, je retrouvais des Américains, je retrouvais des Asiatiques. Il y avait de tellement de continents en un seul et même pays et tout petit espace qu'est la Mecque, un lieu de culte. Tous ces gens sont musulmans. ils s'acceptent entre eux et ils vivent entre eux et pourtant ils parlent même pas la même langue et ils arrivent à s'accepter, à même au niveau des repas, il y avait des restaurants de tous les pays. On pouvait manger ce qu'on voulait, c'était halal. On pouvait discuter entre nous, même si on partageait pas la même langue. Le sourire parlait, les yeux parlaient, le corps parlait. La richesse, le partage, la bienveillance. C'était incroyable. Et pourtant, il y avait beaucoup de différences. Et je me sentais bien parce que je pouvais être couverte. Et personne ne me disait, mais pourquoi tu dois te libérer pour aller faire tes prières? Non mais ça va, faut t'adapter. Mais pourquoi tu portes des vêtements aussi couvrants? Non mais ça va, il faut que tu t'adaptes. Ouais, ok. Bon, après, vous me direz, c'était un lieu de culte musulman. Donc forcément, la musulmane que je suis, ça aurait été étrange que je me sente mal là-bas. Parce que bah, forcément, ça prenait toutes les valeurs que je partage. Et forcément, dans un pays qui est non musulman comme la France, il va y avoir des moments où je vais pas me sentir à ma place. Et c'est normal, c'est pas aux gens de changer pour faire en sorte que je m'accepte, enfin que je me sente bien. Il faut aussi faire preuve d'adaptation, et ça, j'en ai conscience. Mais dans mon pays, qui avant acceptait la richesse étrangère, aujourd'hui, je ne me sens plus à ma place, alors que finalement, ben, y a pas grand-chose qui a changé. Et je respecte les lois françaises et je respecte les valeurs françaises. Mais ces valeurs-là, égalité, liberté, fraternité, bah finalement, ne sont respectées que pour certaines personnes et pas pour une musulmane aujourd'hui. Bref, donc on parlait de positif. Et donc, je suis revenue de ce voyage incroyable et je me sentais plus à ma place. Je disais à mon mari, mais non, il faut qu'on quitte la France, moi je me sens mal ici, je suis pas bien. Il me dit, Fatih, on a tout construit en France, où tu veux aller? La musulmanie n'existe pas. Est-ce que tu dois vivre à la Mecque? Mais je me voyais pas vivre à la Mecque pour autant. La Mecque, pour moi, c'était un lieu où j'avais besoin de me ressourcer. Mais je me voyais pas vivre là-bas, il n'y a pas de travail pour moi là-bas, il n'y a pas... Enfin voilà, et peut-être qu'un jour je m'y retrouverai, hein, peut-être, mais... C'est pas. J'ai besoin quand même d'un compromis entre ma vie que j'appelle mondaine ici en France et la vie spirituelle qui est là-bas. J'avais besoin d'un milieu, d'un juste milieu. Je suis vraiment dans le juste milieu, je suis pas dans les extrêmes où je vais passer ma vie à penser que religion, religion, religion. J'ai aussi besoin de vivre cette vie en travaillant, en partageant des loisirs, du plaisir avec mes enfants autres que la religion, même si la religion nous apporte beaucoup de bienfaits et de bonheur. Et j'avais envie de me détacher de cette vie mondaine où en France, bah, j'avais beaucoup cette vie mondaine qui me rattrapait. Et où je me sentais obligée de m'habiller d'une certaine manière, obligée de parler d'une certaine manière, obligée de... Bah, parfois, de pas faire mes prières à l'heure, obligée de me justifier sur certains sujets, obligée de me cacher pour d'autres sujets, etc. Et je me sentais pas à ma place. Et finalement, il me dit, écoute, Dieu, la terre appartient à Dieu. C'est lui qui a tout créé. Donc en fait, toutes les terres sont à Dieu. On va s'adapter un petit peu. Et on va essayer de voir comment on le vit, et on se laisse quelques années pour voir si la France redevient ce qu'elle était, ou si effectivement, bah, elle rejette les personnes qui sont comme nous, et qui essaient justement juste de s'épanouir et de faire le bien autour d'elles, parce que finalement, on n'est pas du tout l'image qu'on essaie de donner de nous aux médias, on n'est pas du tout les personnes qu'on essaie de montrer de nous. On est des humains qui cherchent juste à travailler, à vivre leur vie, à partager du bonheur avec les autres. Et je dis pas que tout le monde est comme ça. Il y en a qui sont mauvais, qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont cons. Mais ça leur appartient, c'est leur caractère, c'est l'humain qu'ils sont. C'est pas le musulman ou le chrétien ou le juif qu'ils sont, c'est l'humain qu'ils sont. Et il y a du mauvais dans tout, chez les athées, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs. Il y a du bon et du mauvais en nous. Qui qu'on soit, moi aussi j'ai des côtés négatifs et je fais en sorte justement qu'ils ne ressortent pas. Moi c'est la religion qui me contrôle. Et tant mieux, parce qu'elle me fait du bien, ça m'apaise, ça me rend sereine, ça me permet d'apaiser d'apaiser mon corps sur certaines situations qui me sont défavorables, qui me sont difficiles à gérer. Et c'est là où la religion est une force pour moi. Là où peut-être, pour certaines personnes, ça va être autre chose. Ça va peut-être être leur force, ça va peut-être être leur caractère, leur force, ça va peut-être... Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, j'avais l'impression que je n'étais plus à ma place. Malgré tout, j'ai écouté mon mari, on a fait des efforts et on s'est dit non, allez, on va essayer de se rattacher à cette vie, se rattacher à notre vie qui est en France et essayer de montrer, de par notre comportement, de par les messages qu'on va essayer de faire passer, que finalement, c'est pas la religion le problème, c'est juste les gens qui en font quelque chose de mauvais, qui veulent la noircir par leur... soit par leur volonté de noircir la religion, parce qu'elle dit trop de choses vraies et que ça peut effectivement contredire leur soif de pouvoir, leur soif d'argent. On sait bien que certains... Et je veux pas aller dans des polémiques, mais on sait bien que les médicaments sont créés pour enrichir tout ce qui est pharmaceutique. Et si les médecins existent, c'est parce que des maladies existent. Mais les maladies, c'est pas la nature qui les a créées. C'est l'humain qui les a créées. Via des produits chimiques, via des virus qui sont créés en laboratoire, etc., etc. Et ça fait vivre tout un commerce. Le commerce de la médecine, de la pharmacie, qui vend des médicaments, il y a les vaccins, il y a... Enfin bref, etc., etc. Et on peut me contredire là-dessus, je l'entends. Ça, c'est mon opinion. Vous êtes libre à vous de penser différemment. Mais effectivement, tout ce qu'on découvre actuellement ne fait que valider ma façon de penser à ce sujet. Mais bon, libre à chacune d'en penser ce qu'elle souhaite. Je ne vais pas m'aventurer dans ce discours, mais simplement pour vous partager ma vision des choses. Et effectivement, là, il s'avère que beaucoup de personnes ont intérêt à noircir une certaine religion qui dit la vérité et qui apporte beaucoup de bienfaits à certaines personnes qui n'ont pas forcément besoin de prendre des médicaments pour dormir, mais simplement d'aller faire quelques prières et quelques invocations. Mais ça encore, il faut y croire. Et moi, j'essaie de convertir personne parce que je sais pertinemment que c'est Dieu qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Donc, si un jour vous décidez d'entrer dans la religion musulmane, c'est que Dieu vous a guidé. Peut-être que certains humains vont être la cause, mais c'est Dieu qui vous aura guidé. Et si vous vous égarez en disant « mais moi je crois en rien, et de façon ton Dieu, et de façon ton Dieu, et de façon ceci, et les religions ça n'existe pas, et pourquoi ça, ça existe, si Dieu existait, y aurait moins de ça sur terre, et ben... » Mais en fait, ces personnes-là, c'est juste que Dieu a décidé de les égarer. Et je leur souhaite d'être guidée, parce que c'est tellement apaisant d'être guidée, c'est tellement... ça fait tellement du bien de savoir pourquoi on est sur Terre, et revoir toute l'histoire, en fait, et savoir que, finalement, la mort est un rappel, et quand on dit que la mort est un rappel, on sait que personne n'est éternel. Ces gens-là, quand ils pensent que Dieu n'existe pas, ils se rattachent à quoi? Qu'est-ce qu'ils font sur Terre? Quelle est l'histoire qu'ils se racontent pour se donner un but à la vie, se donner un but sur cette Terre? Ils voient bien que les gens autour d'eux meurent. Après la mort, il y a quoi? Et en fait, t'es venu sur Terre, pourquoi? Et comment t'as fait pour venir sur Terre? Enfin, une personne, un humain comme toi, t'a porté dans son ventre 9 mois. T'as accouché par ses organes. T'as fait sortir ton corps avec ton cœur qui bat. Il y a une âme à l'intérieur. Et quand on grandit, on ne se souvient plus de tout ça, de quand on était dans le ventre, etc. Mais comment justifier tout ça s'il n'y a pas un Dieu qui existe? Enfin bref. Donc voilà, j'étais dans cette bulle de sérénité, de spiritualité, où j'avais envie de tout quitter, limite, et m'enfermer dans ma bulle, et ne plus être en contact avec les gens négatifs, et ne plus... Et justement, la transition est bonne, parce que je voulais... en venir au fait que ce voyage a fait le tri autour de moi. Donc il y a eu un tri avant et il y a eu un tri après ce voyage. Le tri d'avant m'a été imposé. Ce sont les gens qui m'ont quitté parce que j'ai changé de physique. D'accord? Le voyage et le tri d'après voyage, c'est moi qui me le suis imposé, entre guillemets, en quittant toutes les personnes qui me causaient du tort ou qui me causait du négatif. pour finalement ben, me retrouver à un moment donné toute seule. Mais c'est très bien, parce qu'en fait, je savais après ce voyage que je n'étais plus toute seule, que j'avais toujours Dieu avec moi. J'avais ma famille, c'est le plus important. Les autres n'étaient qu'un plus dans ma vie et que je n'accepterais pas ceux qui allaient m'apporter moins. Parce que je me suffisais et Dieu me suffisait et ma famille me suffisait. Et ça a été un énorme déclic pour la personne que je suis, qui comptait beaucoup sur le regard des autres, sur le qu'en dira-t-on, sur un petit peu ce que les gens vont penser, parce que je voulais les satisfaire, je voulais les combler, je voulais toujours qu'ils soient satisfaits de moi. Mais en fait, il n'y a que Dieu qui doit être satisfait de moi. Et en satisfaisant Dieu, je satisferai l'humain, parce que je n'ai que du bon à leur donner. Et à partir de là, j'ai fait un énorme tri, que ce soit sur mes réseaux, dans ma vie, dans ma vraie vie, dans mes relations personnelles, dans mes relations professionnelles. Et ça m'a fait énormément de bien. Et c'est là où j'ai vu les portes s'ouvrir à moi. Et vraiment, je mesure mes mots quand je vous dis ça. C'est pas juste extraordinaire et waouh, elle essaie de nous faire croire que parce que elle a appliqué sa religion ou parce qu'elle est musulmane, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées dans sa vie. Non, 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 non. Je suis pas dans ce discours-là. Moi, je suis très factuelle et en temps normal, je crois que ce que je vois, je crois que la seule chose en laquelle je crois et que je ne vois pas, ce sont les préceptes de l'islam, Dieu, ses anges, etc., l'histoire, etc. C'est des choses qu'on ne voit pas. Mais pour autant, j'y crois, le monde surnaturel, j'y crois aussi parce que les djinns, etc., c'est cité dans le Coran et forcément, j'y crois si je suis musulmane. Mais de là à croire que par miracle, un jour, toutes les portes vont s'ouvrir, jusque-là, pour moi, ça semblait tellement impalpable, j'invente des mots, mais je pouvais pas le toucher, je pouvais pas le mesurer. Je me disais, mais non, ok, elle est en train d'extrapoler un petit peu. Là, vous dire ce qui s'est passé dans mon quotidien, moi, à la tête de mon agence Chic Mum Organisation, qui allait s'effondrer du jour au lendemain parce que j'ai perdu mes gros clients, j'ai perdu une grosse partie de mes abonnés, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Et finalement, j'ai eu des opportunités qui se sont ouvertes à moi, qui se sont proposées, qui sont arrivées sur mon chemin, que j'ai saisies. Bien évidemment, il faut faire les causes, il ne faut pas rester les bras croisés en se disant « c'est Dieu qui donne ». Non, non, il faut faire les causes, il faut se bouger. J'ai continué à travailler, j'ai continué à faire des concessions, j'ai continué à fermer les yeux sur toutes les méchancetés qu'on pouvait me dire. Mais Dieu m'a donné une sérénité dans mon cœur. Il m'a ouvert des portes, mon business a continué. À continuer à vivre, j'ai eu des collaborations, j'ai eu de nouveaux clients, j'ai eu un nouveau business qui est né aussi. Et ce business venait répondre aux personnes que j'ai accompagnées avec Chic Mum Organisation et qui revenaient solliciter davantage mon aide et mon accompagnement et qui se fichaient du nouveau look que je pouvais avoir. Et c'est là où je vais vous raconter dans le prochain épisode. On va rentrer dans le vif du sujet, on va cesser de parler essentiellement spiritualité, il y aura toujours un petit lien parce que ça fait partie de qui je suis et je vous ferai un petit rappel à chaque fois, non pas de la religion, mais un petit rappel de ce qui a été le déclencheur de mes prises de décision pour que vous puissiez voir comment j'ai introduit, comment j'ai intégré la religion au centre de mes priorités et que finalement c'est juste dans mon comportement de femme. Que finalement, quand on parle de femme musulmane, c'est un tout, c'est un fait. C'est pas, il faut pas le prendre mal quand on n'est pas musulman, de se dire « Ah ouais, mais ils sont toujours entre eux, à part toujours de musulmanes, à part toujours de religion. » Non, c'est juste que, comme je vous parlerai de routine et d'organisation, aujourd'hui je vous parle de ma vie de musulmane, c'est simplement ma vie d'humaine. Et vu que c'est la religion qui dicte mes pas et mon comportement, il ne faut pas le prendre mal. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué à expliquer. Et je vois que là, j'ai vraiment éclaté le record de du temps de podcast. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, si vous avez tenu le coup. Mais C'était important pour moi de vous faire cet épisode et je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Vous retrouverez d'ailleurs pour toutes celles qui veulent une vidéo le port du voile, mon cheminement, mais aussi une vidéo de mon retour de la Omra, de ce pèlerinage, de ce voyage à la Mecque. Vous les retrouverez sur mon compte Instagram. Ils sont dans les réels. Il faut remonter un petit peu jusqu'à il y a quelques mois, bien évidemment, parce que ça fait un petit moment que je les ai postés. Mais en remontant un petit peu, vous verrez le titre, pourquoi je porte mon foulard, et il y en a un autre, mon pèlerinage à la Mecque. Et aussi, ou mon voyage spirituel, je ne sais plus très bien comment je l'ai nommé. Mais dans les prochains épisodes, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de ma vie de femme à 360 degrés et cette fois-ci, ma vie d'entrepreneur, ma vie de maman, ma vie d'épouse. Et je vais vous partager pas mal de choses qui pourront vous aider dans votre cheminement de femme avec une casquette à 360 degrés. Et je vous parlerai du projet qui est arrivé sur mon chemin et que j'ai saisi et qui a animé toute l'année 2023. Mais un peu de patience. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de mes aventures. En attendant, de se retrouver vendredi prochain. Sens-toi libre de partager l'épisode à tes amis et me laisser ton avis. Je prends vraiment plaisir à lire chacun de vos retours sur Instagram. Vous pouvez également retrouver les informations en description sous cette vidéo. Je t'embrasse bien fort et te dis à vendredi prochain, si Dieu le veut.